Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
Vous êtes toujours sur Radio Spoutnik et nous continuons à suivre l'actualité.
Pantin, commune du nord-est parisien, compte 53 000 habitants, 5300 logements sociaux et 3 rapports. L'Agence nationale du contrôle du logement social de ces 10 dernières années. Des anomalies dans la gestion des logements sociaux et des marchés publics ont été constatées. Une association de locataires a également décidé de porter plainte. Et bien, nous vous en disons plus sur cette affaire dans la suite de l'émission.
Après les passagers d'Air France, les ambassades françaises en Afrique. En 2 jours, 2 affaires d'espionnage de nos ressortissants par les Américains ou les Anglais sont dévoilées par Le Monde et The Intercept. Côté français, pas de réaction de l'Élysée, de Matignon ou encore du Quai d'Orsay. Un mutisme déjà observé sur d'autres révélations de l'affaire Snowden. Alors pourquoi cet assourdissant silence? Restez à l'écoute, on y répond très vite.
L'association Chrétien de Syrie pour la paix s'est réunie ce matin devant l'ambassade de Russie à Paris pour rendre hommage aux victimes russes du conflit syrien et les remercier de leur engagement aux côtés des Syriens. Les chrétiens, qui représentaient 10% environ de la population avant la guerre, sont sur le point de disparaître du pays, selon l'adage des terroristes sionistes, je cite, « la valise ou le cercueil ». La présidente de l'association a lancé un appel vibrant pour que l'Occident, et en particulier la France, cesse de soutenir les terroristes qui ne cachent pas leur volonté de vider la Syrie de sa composante chrétienne. Et bien, plus de détails très bientôt.
Les scandales de dopage ont plusieurs fois fait la une cette année, et plus particulièrement les AUT, les autorisations à usage thérapeutique permettant aux athlètes atteints de maladies chroniques de se soigner en utilisant des substances figurant sur la liste des produits interdits. Mais certains athlètes en abusent et l'opinion publique dans tout ça se semble se sentir trahi. Si on croit un sondage réalisé par l'IFOP, une majorité d'Européens et d'Américains estiment que les sportifs malades ne devraient pas prendre de médicaments interdits. Ce sont 66% des Polonais, 50% des Italiens et des Allemands, 48% des Français et 45% des Américains qui se prononcent contre cette forme de dopage. Nous revenons sur le sujet dans quelques instants.
Radio Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
Plusieurs rapports de l'Agence nationale du contrôle de logement social pointent du doigt des dysfonctionnements au sein de Pantin Habitat, principal bailleur social de la ville éponyme.
Instabilité de la gouvernance, situation financière tendue, des points faibles qui sont mentionnés dans 3 rapports établis sur 10 ans.
La plainte d'une association de défense des locataires est venue s'ajouter au dossier.
Nous avons rencontré les plaignants qui nous expliquent ce qui se passerait entre les murs de l'office HLM de Pantin. On écoute Gaëlle Nicole.
Instabilité préjudiciable de la gouvernance ces dernières années, absence sur une longue période de procédures formalisées de contrôle interne, structure financière dégradée. L'office HLM de la ville de Pantin n'est pas épargné dans le dernier rapport de l'ANCOLS daté de 2015. Une situation qui, aux yeux d'Hussein Essafi, président de l'association 4 Chemins, n'est plus tenable.
Je suis président de l'association 4 Chemins. C'est une association en charge de la défense des intérêts des locataires, dont le but est tout simplement d'assister tous les locataires qui ont des soucis, de représenter la défense des intérêts des locataires, tout simplement. Vous avez, il y a un fonctionnaire qui s'est permis de nous remettre ce dossier. Et étant donné que je suis natif de Pantin et que je participe à la vie associative depuis, on va dire, plus d'une dizaine d'années, parce que j'estimais que les Pantinois doivent savoir ce qui se passe à Pantin.
Que reproche l'association de locataires au bailleur social? Faux en écriture publique, délit de favoritisme, trafic d'influence et prise illégale d'intérêt. Elle a porté plainte il y a 1 an contre X auprès du tribunal de grande instance de Bobigny. L'association 4 Chemins se penche sur une période où Pantin Habitat était présidé par Bertrand Kern, l'actuel maire de la ville.
Alors, concernant aussi les marchés, je vous cite un autre exemple. En 2013 toujours, la régie fera l'acquisition d'environ 320 000 euros. Et bien sûr, toujours, aucun marché public ne sera mis en place, il n'y a pas de stock, pas de marché, pas d'appel d'offres et pas de justificatif. Nous avons joint à ce dossier la Chambre régionale des comptes, qui constate effectivement plusieurs dysfonctionnements sur Pantin Habitat et bien évidemment sur la ville de Pantin. Le délit de favoritisme et trafic d'influence, pareil, ça c'est assez intéressant. La directrice de gestion de proximité, toujours actuelle, de Pantin Habitat, elle s'est fait attribuer un logement de 5 pièces en 2013 qu'elle a transformé en 4 pièces sans demander la permission à personne, alors qu'il y avait 4 familles qui étaient prioritaires et qui prétendaient à ce logement.
La plainte est étayée par 3 rapports de l'Agence nationale du contrôle du logement social en Corse. D'un rapport à l'autre, les dysfonctionnements semblent se répéter. Irrégularité dans la tenue de la comptabilité en 2004, situation financière très tendue, manque de rigueur et de professionnalisme en 2009, instabilité préjudiciable de la gouvernance ces dernières années, absence de contrôle interne en 2015. À première vue, on peut se demander comment une telle répétition est possible. Ancols nous répond.
Une autre nouveauté de l'Ancols par rapport à la Milos qui lui préexistait sur le champ du logement social, c'est que la loi maintenant a donné des pouvoirs à l'Ancols au stade des suites qui sont données à ces rapports. Donc du coup ça n'existait pas avant, donc ça peut expliquer que la Milos parfois prêchait un petit peu dans le désert et que les rapports se soient enchaînés sans que l'organisme ait mis bon ordre à ses dysfonctionnements. Mais dorénavant avec l'Ancols, ça arrivera de moins en moins parce que la loi a doté l'Ancols de moyens de coercition. Voilà. Et il y a déjà un certain nombre de sanctions qui ont été prononcées par le ministre du Logement sur proposition de l'Ancols, et on a déjà connu des mises en demeure pour des organismes qui récalcitrants qui refusaient de régulariser certains aspects de leur gestion.
Tout comme dans la plainte de l'association 4 Chemins, les rapports d'Ancols soulignent des anomalies sur l'attribution des logements sociaux et sur les marchés publics. Le rapport de 2015 révèle qu'un nombre important de fonctionnaires territoriaux de la ville de Pantin a bénéficié d'une attribution de logements. Ce n'est pas interdit, mais sur 2013 et 2014, cela correspond tout de même à plus de 11 et 12% des attributions de l'année. Le rapport 2009 est étalé de contrats conclus avec des prestataires extérieurs sans mise en concurrence préalable. C'est ce que laisse également entendre le rapport de la Cour des comptes de 2009 où les explications données à l'absence d'analyse préalable des besoins ne sont pas de nature à exonérer la ville de la passation d'un marché public. Ancols précise néanmoins que 3 rapports sur 10 ans, ce n'est pas non plus le signe que tout va mal.
C'est sûr qu'en Ile-de-France, on est peut-être un peu plus attentif, on retourne peut-être un peu plus fréquemment que dans des zones très détendues en province. On retourne voir les organismes parce que les enjeux sont plus forts. Il y a des enjeux en termes de, par exemple, de surloyer, de construction, parce qu'il y a beaucoup de besoins en Ile-de-France. La gouvernance est peut-être plus compliquée dans la petite couronne que dans d'autres régions. Donc c'est sûr qu'on est plus vigilant.
L'Agence nationale du contrôle du logement social n'a pas vocation à commenter ses propres rapports. Depuis que la mission interministérielle d'inspection du logement social a laissé place à l'Ancols en 2015, les rapports sont publics, sauf exception. L'agence tend vers plus de transparence. La plainte de l'association 4 Chemins, qui concerne une période antérieure, est toujours à l'étude. Son président, Hussein Hussafi, se dit menacé depuis qu'elle l'a déposée. Gaëlle Nicole, Radio Sputnik France.
Nous nous posions la question hier, en studio, en off bien sûr, comment quantifier, mesurer la libération d'Alep ? À quel point l'offensive, ou plutôt la contre-offensive des troupes syriennes légitimistes a-t-elle progressé ? Benjamin Blanchard, le directeur de l'ONG SOS Chrétien d'Orient, très présent en Syrie, m'expliquait récemment que les fronts n'avaient guère évolué de 2012 à 2016 et que les rebelles détenaient 2/3 de la vieille ville avant justement cette contre-offensive. La guerre de mouvement a commencé en juillet dernier avec la libération de la route de Castello vers le nord. Depuis l'été, donc, les fronts bougent, la poche est réduite progressivement au prix de combats acharnés. Et Marie et moi vous annonçons chaque semaine, depuis 2 mois, que 2, 3, 4, voire 10 quartiers d'Alep supplémentaires sont libérés. Mais cela reste difficilement compréhensible. Nous sommes parisiens, donc nous voyons malheureusement les choses comme des parigots parisiano-centrés. Nous imaginons donc que 20 arrondissements, alors un quartier, ça semble énorme. Je m'imagine à chaque fois que Bachar el-Assad a libéré une zone aussi grande que le 15e arrondissement avant de lancer ses tanks en direction de l'île de la cité. Bref, tout cela n'était pas très clair pour moi non plus. Mais rassurez-vous, chers auditeurs, nous avons aujourd'hui la réponse. En tout et pour tout, cet après-midi, les troupes gouvernementales ont délogé les terroristes de 52 quartiers supplémentaires. Un quartier a donc tout l'air d'être plus petit qu'un arrondissement parisien. Je sais, vous allez me dire, chers auditeurs, que je ne réponds pas à mes propres questions. Mais attendez, je peux vous en dire davantage, j'ai une stat infaillible. Les troupes syriennes ont repris le contrôle de 93% du territoire d'Alep. Voilà donc cette stat infaillible, et j'ai aussi sous le coude une source assez solide. Je cite, au cours de l'offensive réussie, les terroristes ont été délogés de 52 quartiers d'Alep Est. Rien que sur les 4 derniers jours, le territoire contrôlé par les djihadistes s'est rétréci d'un tiers. L'armée syrienne contrôle désormais 93% du territoire de la ville, a déclaré Sergueï Routskoï, chef du commandement opérationnel principal de l'état-major général des forces aux armées russes. Donc si vous voulez, je peux ajouter quelques petits calculs. Alep fait 190 km², 19 000 hectares. Paris n'en fait que 10 500. Les troupes syriennes contrôlent donc presque deux fois la superficie de la capitale française. Et puis un terrain de football, c'est 0,7 hectares. Les troupes syriennes contrôlent donc plus de 25 000 terrains de football. Et il leur reste ainsi 1900 terrains de football à libérer, soit 1330 hectares.
Dernières actualités, des analyses d'experts et des enquêtes exclusives.
Radio Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
Le Monde révèle que les ambassades françaises en Afrique, le président français de l'OMC, Total ou encore Thales, ont été espionnées par les agences de renseignement anglo-saxonnes. En collaboration avec The Intercept, les journalistes français ont eu accès à des documents d'Edward Snowden sur les agissements de la NSA.
Hier déjà, le quotidien révélait que les passagers de plusieurs dizaines de compagnies aériennes, dont Air France, avaient été espionnés. Alors, comment peut-on expliquer ce silence assourdissant de Paris sur ces affaires? Nous posons la question à Maxime Perrotin, qui est assis devant nous dans le studio. Bonjour Maxime.
Bonsoir Edouard. Alors, deux jours, deux affaires d'écoute. Le Monde et The Intercept publient ce vendredi 9 décembre un nouvel ensemble d'éléments issus des archives de l'ex-agent de la NSA, Edward Snowden, qui montrent que les agences de renseignement américaines et britanniques ont espionné les intérêts français en Afrique. Une nouvelle explosive après les révélations d'hier, où on apprenait que la NSA et son pendant britannique, le GCHQ, interceptaient les communications téléphoniques des passagers de dizaines de compagnies aériennes, dont vraisemblablement Air France. Alors deux coups de tonnerre consécutifs qui n'ont pas arraché un mot à l'Élysée, Matignon, ni même au Quai d'Orsay. Pourtant, Le Monde a retrouvé dans les listings d'écoute auxquels il a eu accès les courriels et portables d'ambassadeurs français en poste en Afrique à N'Djamena, Niamey ou Kinshasa. Dans le lot des écoutes, français figuraient aussi de hauts responsables ministériels comme Emmanuel Guillemet, directeur de cabinet d'Anne-Marie Drac, secrétaire d'État au commerce extérieur, mais aussi directeur adjoint du cabinet de Christine Lagarde, ministre de l'économie. N'oublions pas dans cet inventaire le président de l'Organisme mondial du commerce, Pascal Lamy. Une situation contre laquelle s'insurge Damien Lempereur, délégué national à Debout la France.
Oui, bah écoutez, malheureusement c'est peu surprenant, hein, puisqu'on avait déjà eu peu ou pas même de réaction lorsqu'on avait appris les précédentes vagues d'écoute, au moment où l'Allemagne était également concernée. La France avait très peu réagi, alors que les Allemands avaient réagi de façon beaucoup plus énergique, ce qui semblait d'ailleurs tout à fait normal. Ça révèle certainement, voilà, une forme de soumission, encore une fois, à nos alliés américains, qui est choquante, mais malheureusement pas surprenante.
Pour le député socialiste Jérôme Lambert, ces écoutes, bien que condamnables, sont une réalité incontournable.
Les technologies permettent aujourd'hui ce type de comportement. On peut s'en offusquer, mais dans la réalité, les responsables politiques, les responsables militaires, les hommes d'affaires de tous les pays du monde doivent savoir que où qu'ils se trouvent dans le monde, ils peuvent faire l'objet d'écoutes de la part de la plupart des grands pays du monde.
Outre ces contacts institutionnels, on retrouve de grands noms du CAC 40 tels que Total et Thales, eux aussi ciblés par les écoutes anglo-saxonnes dans un contexte de concurrence pour des marchés miniers et pétroliers africains. Un contexte de guerre économique dans lequel semblent d'ailleurs s'inscrire les écoutes de Pascal Lamy, alors en visite en Nouvelle-Zélande à quelques jours d'un G20 à Londres où il allait plaider pour moins de mesures protectionnistes. Mais comment expliquer un tel silence des autorités françaises, excusez-moi, un silence d'autant plus gênant que déjà à l'époque les médias soulignaient que François Hollande avait promis aux prémices de l'affaire Snowden un, je cite, cadre de coopération sur la surveillance. Nous étions alors en 2013. Pour le député, ce qu'il a finalement de plus gênant pour un responsable politique ou économique, c'est que l'affaire s'ébruite, lui assurant une bien bonne publicité, celle d'apparaître crédule.
Qui peut être content que ça apparaisse effectivement publiquement? C'est à la limite la révélation publique qui rend ce genre d'affaires délicates, parce qu'aucun dirigeant de ce monde, qu'il soit d'un côté ou de l'autre, de l'échiquier politique ou géostratégique, aucun dirigeant du monde ne peut imaginer un seul instant qu'il ne puisse jamais faire l'objet d'une écoute de n'importe quelle grande puissance ou puissance même moyenne, grande ou plus moyenne de ce monde. Chacun a aujourd'hui les moyens. Évidemment, ça ne fait pas plaisir quand c'est révélé parce que le dirigeant politique en question apparaît comme un peu crédule.
En tout état de cause, ces révélations d'espionnage avérées font bien moins de bruit que de plus ou moins hypothétiques campagnes de piratage. Tout le monde garde en mémoire la psychose américaine de piratage russe à l'occasion des élections présidentielles, une fièvre qui s'est aussi emparée de l'Allemagne à la fin du mois de novembre. Alors que le pays subissait une attaque informatique massive, le spectre du Kremlin fut brandi, là encore pour dénoncer d'éventuelles intentions russes de s'ingérer dans les affaires du pays. Alors au-delà de la disparité des réactions, Jérôme Lambert juge peu crédible qu'un État mette en danger sa réputation dans un tel jeu.
Penser qu'un État comme tel que la Russie interviendrait dans le déroulement des élections allemandes, comme d'ailleurs dans le déroulement des élections américaines, c'est quand même, d'abord ça laisse toujours des traces. La preuve en est, quand il y a des attaques, on s'en rend compte. Donc, moi, j'imagine pas qu'un État puisse jouer à ce niveau-là. Ce serait complètement ridicule et sans doute contre-productif pour lui-même.
Déjà, l'an passé, lorsqu'en juin 2015, on apprenait que les conversations téléphoniques des trois derniers présidents français avaient été écoutées par la NSA, les responsables politiques français avaient manqué de voix pour dénoncer cette pratique. Une ligne en partie suivie par Angela Merkel, bien qu'elle ait tenu à hausser le ton vis-à-vis de Barack Obama. Alors quoi qu'il en soit, l'affaire Snowden, débutée en 2013, n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Finalement, ne préfère-t-on pas, en France, comme le dit une expression anglaise, « tuer le messager » Plutôt que de protester contre les douteuses pratiques de nos chers alliés anglo-saxons, la France a préféré refuser à Snowden l'asile politique. Mieux encore, à l'époque où le lanceur d'alerte était en fuite, la France avait fermé son espace aérien à l'avion du président bolivien Evo Morales, de peur que l'ex-agent américain ne s'y trouvât. C'était Maxime Perrotin, Radio Sputnik France.
Les AUT, autorisations à usage thérapeutique, ne font pas l'unanimité auprès de l'opinion publique.
66% des Polonais, 50% des Italiens et des Allemands, 48% des Français et 45% des Américains se prononcent contre cette forme de dopage dans un sondage IFOP.
Dopage sportif et non-soin, oui, des hackers russes, les Fancy Bears, ont révélé plusieurs cas de sportifs qui abusaient de ces AUT pour se doper, comme les sœurs Williams, entre autres.
Ces scandales à répétition ont-ils influencé l'opinion publique dans le débat? Eh bien, nous écoutons Véronique Lebar, présidente du comité ethnique et sport et ancienne responsable de la cellule médicale à l'Agence française de lutte contre le dopage, des propos recueillis par Daphné Chazalon.
Pour revenir un petit peu sur les autorisations à usage thérapeutique qui permettent aux athlètes de pouvoir se soigner en utilisant des substances qui figurent sur la liste des produits interdits pour les athlètes. Quels sont les avantages de ces autorisations et quels sont également les inconvénients qu'on a pu découvrir au fur et à mesure ?
C'est vraiment en 2007 qu'elles ont commencé à être mises en place. Avant, les sportifs, qu'ils soient porteurs de maladies chroniques, donc longue, hein, qui se répète dans le temps, qui soit ou aiguë, hein, comme un gros rhume ou je sais pas quoi, une angine, hein, les sportifs étaient dans l'obligation de s'arrêter ou de ne pas faire de compétition. Donc c'était quand même discriminant pour des sportifs qui pouvaient être porteurs d'un asthme par exemple, hein. C'était quand même discriminant parce qu'ils étaient obligés de prendre des substances qui étaient sur la liste de façon pérenne. Ils étaient tout à fait capables de faire un sport et donc c'est quand même une grande avancée d'avoir inventé ces AUT, d'avoir plus exactement mis en place ces AUT. C'est quand même une grande avancée.
Mais du coup, est-ce qu'on n'a pas vu que certaines personnes étaient susceptibles de pouvoir profiter de cette autorisation? Plusieurs cas ont été dévoilés en début d'année suite aux Jeux Olympiques de Rio. Également avec le Tour de France, on a vu que Chris Froome avait reçu donc une autorisation, mais sans obtenir la validation d'un panel d'experts. On a également vu à l'international les sœurs Williams.
Alors par rapport à ce qui a été véhiculé au niveau des médias, c'est pas parce que là justement il y a eu quand même un petit amalgame. C'est pas parce qu'un sportif prend un produit qui se trouve être sur la liste qu'il est obligatoirement dopé. C'est la différence qu'il y a entre un contrôle anormal et un contrôle positif. C'est très très important. Parce que si vous avez une forte angine, vous êtes obligé à un moment de prendre des corticos, et ben vous vous soignez. Hein, enfin, je parle des gens honnêtes, hein. Je parle pas des gens honnêtes, des gens qui disent qu'ils ont une angine et qui doivent prendre des corticaux pour. Et c'est pour ça qu'on doit apporter dans toute demande d'AUT des preuves de l'existence de la pathologie. Et ces preuves sont examinées de façon anonyme. Il y a trois experts pour statuer sur un dossier d'AUT. Donc, quand les experts ont en main le dossier médical avec les pièces médicales qui justifient la prise du produit qui est sur la liste, donc les experts regardent vraiment s'il y a cette preuve médicale. Mais c'est vrai, pour répondre aussi à la deuxième partie de votre première question, c'est vrai qu'il y a des petits rigolos, enfin c'est pas des rigolos, c'est des gens malhonnêtes, ce dont j'ai été témoin. Il y a deux sortes de personnes malhonnêtes. C'est des personnes qui miment, et je sais, on me l'a souvent rapporté, des sportifs qui miment une douleur articulaire, par exemple, et qui se font faire une infiltration de corticoïdes, infiltration qui ne sont pas considérés comme dopantes, parce que les corticoïdes, quand on les administre par infiltration, ne sont pas considérés comme dopants. Par contre, quand on les administre par voie générale, donc par la bouche en comprimé ou bien en injection, là on a besoin d'une AIT parce qu'ils sont considérés comme dopants. Et très souvent, parce que ça c'est un cas problématique au niveau des AUT, les corticoïdes, très souvent les sportifs malhonnêtes se font faire des infiltrations et évidemment, ils prennent à côté des corticoïdes par la bouche, hein, en pérance, hein, en comprimé, et si jamais ils se font attraper, ils disent « Ah ben non, moi, j'ai eu une infiltration, regardez, j'ai la preuve de l'infiltration, l'attestation du médecin, etc. » Donc ça, c'est classique. Une fois, j'ai reçu à l'agence un dossier d'un sportif, et il avait été faxé, je crois, et ils avaient oublié d'enlever, de changer la date. Et par rapport à l'âge du sportif qui nous envoyait son AUT, l'examen qu'on recevait, qui normalement aurait dû être celui du sportif, aurait pu être celui de son arrière-grand-père, vous voyez ? Ils avaient oublié de changer la date. Et moi, je me souviens, parce que je me dis, mais il y a un problème là, il y a un vrai problème. On a un faux dossier d'AUT. Et le problème, c'est que au niveau de la loi, enfin là, je parle du code sportif, hein, au niveau de la loi, on ne peut rien faire. On a reçu un dossier médical qui prouve évidemment, parce que dans ces cas-là, ça prouve la pathologie évidemment, hein, ils vont pas prendre n'importe quel dossier, et donc on est obligé d'accepter l'AUT. Et ça, ce n'est pas normal.
Un sondage a été réalisé par l'IFOP interrogeant les Européens si les sportifs atteints de maladies chroniques ont le droit de prendre des médicaments qui pourraient leur donner des avantages par rapport à leur compétition. Les Européens ne souhaitent pas que les sportifs aient le droit de prendre. On voit en Pologne 66% sont contre, en France 48%. Est-ce que justement cela est dû, à force de voir des scandales éclater, l'opinion publique se met contre ces autorisations, alors que, comme vous le disiez, certains athlètes en ont un réel besoin pour pouvoir participer à ces compétitions?
C'est vrai que les personnes, enfin le public, a besoin de croire en un sport propre. Et ça, j'adhère évidemment complètement. Mais ce public-là, on devrait lui donner les bonnes informations. Parce que c'est vrai que les gens en ont assez d'une partie de ce sport, parce que tous les sportifs ne sont pas malhonnêtes, de certains sportifs qui jettent l'opprobre sur le sport. Les AUT, à la base, c'est une bonne intention, mais elle est transformée par certaines personnes qui sont malhonnêtes.
Suivez les dernières actualités avec nous, sans parti pris. Radio Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
L'association Chrétien de Syrie pour la paix s'est réunie ce matin devant l'ambassade de Russie en France. Il faut dire que les chrétiens sont sur le point d'être totalement éradiqués alors qu'ils représentaient 10% de la population. On écoute Rueda Kouri, la présidente de l'association, qui estime que les Français sont mal informés et demande à Médecins du Monde de soutenir les familles des médecins russes morts dans le bombardement d'un hôpital à Alep cette semaine.
Nous sommes venus ici à l'ambassade de Russie pour exprimer notre solidarité et présenter nos condoléances au peuple russe et surtout aux familles endeuillées suite à l'attaque terroriste qu'il y a eu il y a quelques jours à Alep et qui a coûté la vie à des médecins et à des militaires. Les Russes ont donné leur sang sur le sol syrien. Et pour combattre le terrorisme, nous sommes reconnaissants de cette alliance entre le peuple syrien et le peuple russe pour un combat commun, qui est un combat contre une idéologie sanguinaire. Et nous souhaitons que vraiment que d'autres États dans le monde comprennent l'enjeu et qu'ils viennent rejoindre, notamment la France, que viennent rejoindre ce processus qui est très important pour la sécurité du monde, la sécurité des Français, des Syriens et des Russes. Malheureusement, les chrétiens sont comme tout le peuple syrien. Elle a été touchée. Les sunnites sont aussi concernés et ils sont tués par des sunnites. Et c'est ça que les gens doivent aussi comprendre. Toute la Syrie est concernée du moment où on a refusé cette idéologie. Mais malheureusement, les chrétiens ont été visés parce qu'ils sont chrétiens. Nous étions 10% avant la guerre. Je crains fortement aujourd'hui que nous sommes à peu près 300% seulement. Il faut aussi nous aider à maintenir notre présence en Syrie. Nous voulons tout simplement être des citoyens de la terre de nos ancêtres. Sarkozy, au début de la guerre, a envoyé un message aux chrétiens, venez en France, il y a de la place pour les chrétiens. Nous ne voulons pas être déplacés de nos terres, nous. Les djihadistes, ils prenaient le pouvoir en Syrie, comme ils le souhaiteraient les pays occidentaux. Nous, ce sera pour nous soit la valise, soit le cercueil. Ils nous demandent « Aslem, taslem ». Ça veut dire quoi ? Deviens musulman, tu as la vie sauve. Où est-ce qu'elle est la démocratie dans ces termes-là? Ça veut dire que nous sommes menacés. Et nous voulons vraiment que tout le monde entier comprenne que nous ne sommes pas une minorité. Nous sommes des Syriens, avant tout. Et qu'il faut qu'on nous considère comme en tant que tels. Et qu'on ne soit pas menacés pour seulement notre religion. Malheureusement, très peu de Français ont compris ce qui se passe en Syrie. Il y a ce qu'on appelle un totalitarisme intellectuel. Il n'y a pas seulement les islamistes, mais il y a aussi un certain comportement de la part des intellectuels qui nous empêche de réfléchir et qui nous empêche de décider de nous-mêmes de ce qui se passe dans le monde et de ce qu'on voudrait vraiment. On voit bien quand même que certaines politiques, comme par exemple M. Fillon, qui tend la main à Poutine, on voit bien que certaines... Le peuple lui-même, s'il l'a élu, s'il l'a choisi, c'est qu'ils veulent aussi ces changements-là, pas seulement pour l'intérieur, mais aussi au niveau de la scène internationale. Médecins du monde, je leur dis, vous aidez des gens qui veulent votre mort. Réveillez-vous, il est temps. Ne soyez pas complices de cette idéologie sanguinaire. Il est haut leur soutien pour les médecins qui ont été bombardés, l'hôpital russe qui vient d'être bombardé par les djihadistes que eux s'y tiennent. Ça, nous ne le comprenons pas. Et si on va sur le site, je vais trop loin, de Médecins du Monde, on voit bien qu'il y en a eu des propositions de la part de Daesh pour qu'ils les aident et qu'ils les soignent. Et eux, ils ont répondu, on a des garanties pour notre sécurité, on les soignera. Alors, moi, je ne comprends plus rien. Je veux bien que les médecins, ils ont un métier sans limite et humain. Mais l'humain ne s'arrête pas à quelques catégories. Il est pour tout le monde. Soit on est général, soit on est partisan. Et là, malheureusement, ils sont partisans pour leur gouvernement. Nous voulons discuter avec tout le monde. Et nous voulons faire comprendre aux politiques que nous avons autre choix de ce qu'ils veulent pour nous. Et les Syriens, qui sont les nôtres, nos familles sont encore en Syrie. Ils ne sont pas partis. Et nous défendons nos familles qui veulent rester en Syrie et qu'ils vivent tous les jours les conséquences du terrorisme. Pas seulement le terrorisme, malheureusement, mais aussi les conséquences des sanctions économiques internationales. C'est le peuple syrien qui en souffre. Alors nous avons décidé, d'informer les gens. Et on fait des conférences, on fait des rencontres avec les parlementaires et des rencontres avec les Français. Et des rencontres avec les religieux pour que vraiment qu'il y ait un dialogue qui s'instaure entre le peuple français et le peuple syrien. Et d'un dernier point, nous aidons aussi les Syriens à rester chez eux. Comment on aide les Syriens à rester chez eux? Il ne suffit pas de leur donner à manger, mais il faut aider aussi les Syriens à croire à l'avenir. Il y a une réunion qui va y avoir intersyrienne, parce qu'il y a une vraie opposition qui existe dans le monde, qui est reconnue, elle est connue par les Syriens. Pas ce que les Français, les Américains veulent nous imposer. ou les l'Arabie Saoudite. Mais il y a les Russes. Bah, on a par exemple des personnalités qui ont été connues par les Syriens en tant que opposants. Ils se trouvent à l'intérieur de la Syrie. Il y en a certains qui sont partis, ils sont en Russie. Eux, on les connaît. Mais moi, par exemple, Basma Kodmani et sa sœur et les gens qui parlent en mon nom et qu'ils demandent à que la Syrie soit bombardée, je les connais pas. Et les Syriens ne les connaissent pas et ne les reconnaissent pas. Ils sont ni opposants, ni un programme politique. Ils ont rien pour nous. Ils sont des marionnettes dans les mains de l'Occident. Nous, ces gens-là, nous n'en voulons pas.
Radio Sputnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
Vous êtes toujours sur Radio Sputnik et nous continuons à suivre l'actualité.
Le pape François dénonce la désinformation répandue par les médias qu'il estime être, je cite, le plus grand mal qu'un média puisse infliger parce qu'elle oriente l'opinion dans une seule direction en omettant une partie de la vérité. Dans le quotidien belge auquel il s'adresse, le souverain pontife poursuit par dire, je cite, qu'il croit que les médias doivent être plus clairs, plus transparents et ne pas tomber, excusez l'expression, dans la coprophilie, toujours prête à répandre les scandales des choses abominables, quelle qu'en soit la part de vérité.
L'association Chrétiens de Syrie pour la paix s'est réunie ce matin devant l'ambassade de Russie à Paris pour rendre hommage aux victimes russes du conflit syrien et les remercier de leur engagement aux côtés des Syriens. Les chrétiens, qui représentaient 10% environ de la population avant la guerre, sont sur le point de disparaître du pays, selon l'adage des terroristes sunnites, je cite, la valise ou le cercueil. La présidente de l'association a lancé un appel vibrant pour que l'Occident, et en particulier la France, cesse de soutenir les terroristes qui ne cachent pas leur volonté de vider la Syrie de sa composante chrétienne. Plus de détails très bientôt.
Pantin, commune du nord-est parisien, compte 53 000 habitants, 5 300 logements sociaux et 3 rapports de l'Agence nationale du contrôle du logement social ces 10 dernières années. Des anomalies dans la gestion des logements sociaux et des marchés publics ont été constatées. Une association de locataires a également décidé de porter plainte et nous vous en disons plus sur cette affaire dans la suite de l'émission.
Après les passagers d'Air France, les ambassades françaises en Afrique. En 2 jours, 2 affaires d'espionnage de nos ressortissants par les Américains ou les Anglais sont dévoilées par Le Monde ou The Intercept. Côté français, pas de réaction de l'Elysée, de Matignon ou encore du Quai d'Orsay. Un mutisme déjà observé sur d'autres révélations de l'affaire Snowden. Pourquoi cet assourdissant silence? Restez à l'écoute, on y répond très vite.
Radio Sputnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
On vous en parlait dans le journal précédent, les AUT, autorisations à usage thérapeutique, ne font pas l'unanimité auprès de l'opinion publique.
66% des Polonais, 50% des Italiens et des Allemands, 48% des Français et 45% des Américains se prononcent contre cette forme de dopage dans un sondage IFOP.
Les scandales à répétition autour du sujet ont-ils influencé l'opinion publique dans le débat? Eh bien, nous écoutons Dorian Martinez, psychologue du sport et fondateur de Sport Protect, premier organisme à labelliser des produits de la nutrition sportive conformes à la législation antidopage.
Je pense que ce sondage révèle que justement il y a une crise de confiance par rapport à la législation antidopage, notamment par rapport à toutes les affaires qui sortent récemment. Et une tout à fait récente justement sur les AUT qui ont été détournées dans l'affaire des révélations qui ont eu lieu dans des AUT qui ont été détournées de leur fonction première qui est de soigner le sportif et qui ont été de manière légale mais immorale utilisées comme du dopage. Donc je pense que les gens réagissent à ça et que pour eux, à partir du moment où on est malade, bien, comme un travailleur finalement, ne doit pas pratiquer son activité et rester chez lui pour se soigner.
Oui, malheureusement, avec tous ces scandales, les gens n'arrivent plus à faire la différence entre les AUT qui sont nécessaires et qui peuvent avoir une utilité selon vous et ceux qui en abusent.
Exactement. C'est, en fait, le problème, c'est que la règle, elle est faillible. La preuve, avec ces révélations. Mais le principe au départ est honorable. On peut effectivement avoir besoin de prendre des médicaments ou des produits pour se soigner quand on a une réelle pathologie. Le problème, ce sont toutes les AUT de complaisance qui permettent effectivement de prendre un produit alors qu'on n'a strictement aucune pathologie. Donc là, c'est une sorte de dopage légalisé d'une certaine manière.
Et quelle serait la solution, selon vous, d'interdire et de revenir en arrière et donc de ne plus autoriser les AUT ou de pouvoir développer et mettre plus de législation en place concernant les AUT?
Alors, je pense qu'il y a un vrai problème qui peut être résolu assez facilement par rapport à tout ce qui est glucocorticoïdes, où là, il faut vraiment l'interdire. Il y a vraiment là une souplesse qui est vraiment nocive entre des athlètes clean qui n'en prennent pas et d'autres qui l'utilisent avec des AUT de complaisance. Donc je pense que sur les glucocorticoïdes, il y a vraiment quelque chose de simple finalement à mettre en œuvre et pas mal de sportifs et de structures le demandent. Ensuite, sur la règle, je pense qu'effectivement, il faut plus de contrôle sur les AUT. Et parfois, il faudrait peut-être que ce soit pas le pays en question qui vérifie les AUT de ses propres athlètes. Puisque maintenant, on a des suspicions sur des pays qui fermeraient les yeux pour ces athlètes quand ils vont participer à des compétitions internationales. Donc que ces AUT soient vérifiés par un organisme tiers et indépendant qui ne soit ni rattaché à une fédération ni rattaché à un pays.
août 2016, Austin, Texas. Poussé par une foule en liesse, John bouscule Jeannette. Le chant de Jeannette ne fait qu'un tour, hein. Rouge de colère, elle se retourne. Rouge de honte, il lui sourit, et Jeannette fond. Regards émus, lèvres tremblantes, ils comprennent. Et comme pour augurer de l'harmonie qui allait rythmer leur vie, ils se retournent d'un seul et même mouvement pour hurler « Mexico !» à la question que leur posait celui qui n'était pas encore président des États-Unis. « Qui va payer pour le mur ?» Oui. Mais fini les meetings maintenant. Comment feront les John et Jeannette de 2017 pour poser la première brique de leur couple de pro-Trump? On notera la subtile référence au mur. Eh bien, pas de panique. La fin de la campagne n'est pas la fin des rencontres sous le signe de Donald. Et ça, grâce au site internet au nom sans équivoque, trumpsingles.com. Un site pour, je cite, « make dating great again ». Après tout, si l'Amérique retrouve sa grandeur, autant que les rendez-vous galants aussi. Un site internet, donc, où on sait qu'on ne trouvera que des sympathisants de Donald Trump. Et si ça vous paraît bizarre, n'allez pas croire que c'est parce que c'est l'Amérique. La France aussi mêle politique et romance. Vous l'ignoriez peut-être, mais il existe un site gaucherencontre.com, au design terriblement années 2000 d'ailleurs, sur un fond rouge. Et puis pas de jaloux, il existe aussi frontrencontre.com. Bon, et là, pour le coup, on surfe plus sur la vague bleu-blanc-rouge. Et des idées clairement affichées, je cite, « À l'heure où notre belle France subit les terribles conséquences d'une immigration incontrôlée, il n'est pas toujours permis d'affirmer en société ses préférences patriotiques et son adhésion aux idées du Front National. » Hop là, du coup, ça évite le moment où, ayant terminé son mojito de premier rendez-vous, Michel se met très à paniquer et se lancer dans une longue tirade nationaliste en face de Sophie, militante PS pro-européenne. Bon, et ça évite peut-être un moment de gêne, mais est-ce que ça n'évite pas aussi la possibilité de construire avec quelqu'un aux horizons différents? Qu'est-ce que ça dit du monde? Vers quoi on va? Autant de questions qui, par exemple, trouveraient sûrement des réponses plus intéressantes au cours d'une conversation de premier rendez-vous entre deux personnes dont les avis politiques divergent.
Radio Sputnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.